voyage dans le grand rendez-vous avec Liliane Natcha sur Africa Radio.
Et dans un instant, nous débattrons dans le grand rendez-vous des élections régionales qui se tiennent au Cameroun le 6 décembre prochain. Sont les deux grands partis de l'opposition, le MRC et le SDF. Et nos invités sont déjà en ligne. Maître Emmanuel Singh du MRC et professeur Messanga Nyamding du RDPC, le parti au pouvoir, et Sambaka, ancien premier vice-président de l'UDC. Et avant de les retrouver, analysons cette tension entre le Ghana et la Côte d'Ivoire d'une part et deux multinationales de chocolat. Notre invité est en direct d'Abidjan et c'est le directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao à Abidjan. Bonsoir Michel Arion.
Bonsoir madame.
Merci beaucoup d'être en direct avec nous dans cette émission. Un bras de fer oppose donc la Côte d'Ivoire et le Ghana, les deux plus gros producteurs mondiaux de cacao, à deux géants chocolatiers américains, Hershey et Mars, qui sont accusés par ces pays de refuser de payer ce qu'on appelle la prime spéciale, qui a été pourtant négociée l'année dernière et qui permet de mieux rémunérer les producteurs. Est-ce que cette crise est-elle prévisible ?
Je ne dirais pas qu'elle était prévisible. Non, nous pensions depuis l'année dernière que les choses étaient claires pour tout le monde. Bon, je tiens quand même à préciser que notre organisation, l'ICCO, est une organisation de gouvernement, d'États membres, et donc les entreprises privées ne font pas partie de notre organisation. Donc nous n'avons pas le contact direct avec le privé. Mais ce qui avait été rapporté par nos membres était effectivement un accord clair sur le paiement de ce qu'on appelle un différentiel de revenus décents. Et nous en étions réjouis, évidemment, au sein de l'ICCO, puisque notre objectif principal est précisément l'augmentation du revenu des planteurs.
Donc, vous êtes en train de nous dire que ces multinationales sont revenues sur leurs engagements, comme le soulignent les autorités ivoiriennes et ghanéennes.
Écoutez, je n'ai pas d'informations de première main. Il faut dire aussi que les transactions en matière de cacao sont nombreuses. Donc, les fèves sont achetées par des traitants qui sont vendus à des grossistes, qui sont vendus à des exportateurs, à des transformateurs. Et nous parlons avec les deux entreprises mentionnées des États-Unis de chocolatiers. Et donc, entre la fève et le chocolat, il peut y avoir plusieurs transactions. Donc, on ne sait pas non plus comment, en définitive, les coûts et les gains se sont répartis le long de la chaîne.
Mais toujours est-il que vous nous dites que c'est ce qu'on appelle ce différentiel du revenu décent avait été négocié, mais ces multinationales demandent au gouvernement des deux pays de baisser les prix parce que selon elles, le coronavirus, la pandémie a dû ralentir leurs activités. Est-ce que vous comprenez ces arguments ?
Mais je dirais que ce qui se passe d'abord et avant tout, c'est qu'ils n'ont pas acheté de fèves auprès de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Soit directement, soit indirectement, et qu'ils sont allés se fournir ailleurs. Or, l'on sait qu'ils auront besoin tôt ou tard de fèves de Côte d'Ivoire ou du Ghana, puisque ces deux entreprises sont immenses, sont très grandes, et qu'elles le veuillent ou non, ils ont besoin de la Côte d'Ivoire et de Ghana pour s'approvisionner. Donc, en faisant cela, ils n'ont fait que retarder un problème, à mon avis. Mais c'est un peu malheureux qu'ils aient essayé de le faire discrètement, au lieu de sans doute demander à se mettre autour de la table et d'essayer de trouver une solution.
Donc vous pensez que c'est une fuite en avant pour ces entreprises d'aller s'approvisionner sur le marché boursier américain ?
Je dirais que c'est un peu maladroit. C'est un peu maladroit. Et ça ne règle pas un problème. S'ils ont vraiment le problème structurel dont ils parlent, et bien justement qu'ils en parlent ouvertement au lieu d'avoir recours à des solutions qui sont nécessairement précaires et qui ne régleront pas le problème, même à court terme.
Donc vous voulez dire que cette solution ou cette voie alternative d'approvisionnement ne va pas résoudre sur la durée cette crise et que finalement, ce que vous souhaitez, c'est que les gouvernements ivoiriens, ghanéens d'une part et ces multinationales se remettent à discuter pour trouver une solution. Quelle est la marge de manœuvre de chacune des parties ?
Bon, je je ne pense pas. Enfin, je ne suis pas, j'ai pas d'informations sur la volonté du Ghana ou de la Côte d'Ivoire de réouvrir les débats. Sûrement pas au niveau collectif et sûrement pas sur le principe d'un revenu, d'un différentiel de revenu décent. Il est essentiel d'augmenter le revenu des producteurs. C'est d'ailleurs ce que, vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont fait en augmentant de plus de 20% le prix payé aux producteurs. Donc, pour cette campagne, il n'y a sûrement pas moyen de renégocier.
Et quelles sont les conséquences de cette crise sur, à la fois sur les producteurs eux-mêmes qui envisagent d'ailleurs de manifester demain, jeudi, en Côte d'Ivoire et au Ghana, et sur l'économie ivoirienne?
Bon, sur les producteurs, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer. Comme je le disais, d'abord, il y a de nombreuses transactions entre les producteurs et les chocolatiers. Et deuxièmement, je pense que les gouvernements seront suffisamment fermes pour continuer à garantir le prix qui leur a été garanti il y a deux mois. Donc non, je ne pense pas que cela mette en cause. Je dirais que c'est assez. Le problème, c'est vraiment une rupture de confiance. Une rupture de confiance entre les pays producteurs et ces chocolatiers. Donc il faut absolument restaurer la confiance.
Michel Arion, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Directeur exécutif de l'Organisation internationale du cacao en direct d'Abidjan. Et nous allons tout de suite retourner au standard, retrouver nos invités pour ouvrir notre débat sur les élections régionales de dimanche prochain au Cameroun. Et nous allons les saluer. Professeur Pascal Messanga Niamdi, vous êtes là? Alors, professeur Niamdi? Non, pas encore. Est-ce que le maître Emmanuel Sim, avocat, est avec nous?
Oui, bonsoir madame, je suis bien en ligne et bonsoir à vos auditeurs.
Troisième vice-président du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, du professeur Maurice Kamto. Monsieur Sambaka, bonsoir.
Bonsoir madame, bonsoir à tous les panélistes et aux auditeurs.
Ancien premier vice-président jusqu'au mois de septembre dernier de l'UDC, l'Union démocratique du Cameroun du feu, docteur Adamu Ndamdjoya. Votre parti est positionné comme centriste, hein, mais je me rappelle aussi que vous êtes, monsieur Sambaka, militant de la société civile. Alors, les élections régionales se tiennent au Cameroun dimanche prochain. Ce sont les premières de l'histoire du pays. Maître Emmanuel Singh, votre parti a refusé de participer à cette élection qui se fait par scrutin indirect et vous avez demandé comme préalable le retour de la paix dans les zones anglophones. Quel est le regard que vous jetez néanmoins sur ce processus auquel vous ne participerez pas?
Écoutez, la première chose que je voudrais dire, c'est que on peut bien se rendre compte si on est un observateur averti de la scène politique camerounaise que le régime de M. Biya ne prend des décisions que s'il y est contraint et forcé. Les élections régionales qui se tiennent dans quelques heures, madame, auraient dû se tenir depuis 24 ans. Il faut noter que c'est la réforme constitutionnelle
de 1996
qui a prévu la mise en place des régions. Et évidemment, M. Biya et son gouvernement n'en voulaient pas. Il a fallu qu'il y ait une crise grave au nord-ouest, au sud-ouest. Il a fallu qu'il se tienne un grand dialogue à Yaoundé et que ce dialogue fasse une recommandation de la mise en œuvre des régions pour que M. Biya et ses amis, enfin, daignent organiser ces élections régionales. Donc, vous comprenez que pour nous, c'est de manière forcé que M. Biya va aux élections, mais il n'y croit pas du tout. Et tout à l'heure, je pense qu'on en parlera.
Donc vous estimez que si ces élections avaient eu lieu, pas aussi, disons, après ce qu'avait prescrit la Constitution en 1996, on aurait peut-être évité la crise anglophone?
Absolument, madame. Je crois que 24 ans plus tard, on aurait pu mettre en place des régions, évaluer le fonctionnement des régions, corriger les imperfections et arriver aujourd'hui, en 2020, à un mode de fonctionnement sûrement meilleur. Merci. On est contraint de commencer à zéro, madame. Et donc, le maire se disait et dit toujours que pour nous, le préalable à ces élections devait être le retour à la paix au nord-ouest, au sud-ouest et la réforme consensuelle du système électoral. C'est les deux conditions qu'on a posées et je pense que un Camerounais honnête comprend très bien ses raisons, elles sont fondées, elles sont valables.
Et juste pour souligner que le professeur Pascal Messanga Niamding est en ligne avec nous, on va revenir à vous, au professeur, tout à l'heure, mais je voudrais donner la parole à M. Sambaka. C'est vrai, M. Sambaka, que vous n'êtes plus membre de l'UDC, qui a néanmoins présenté des candidats dans l'ouest du Cameroun. Est-ce que vous partagez l'analyse de Maître Emmanuel Sim sur le fait que si on avait organisé ces régionales comme l'avait prévu la Constitution de 1996, peut-être qu'on n'aurait pas vécu ce conflit armé auquel on assiste aujourd'hui dans les Nosos, ce qu'on appelle les Nosos, les régions du nord-ouest et sud-ouest?
Oui, je dois dire que si on va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut revenir vers les années 91, quand il y a eu la vaste crise, parce que le problème du Noso s'est posé avec acuité depuis ce temps. Et vous savez qu'il y avait des fédéralistes, et puis il y avait des jacobins. Donc, en 1991, à la réunion tripartite, le chemin avait été tracé. Et un consensus avait été trouvé entre le fédéralisme et le jacobinisme. C'est ça qui a débouché à cette décentralisation. Et je dois dire qu'on avait jeté les bases de cette décentralisation en disant clairement qu'on va aller vers les régions et que ces régions allaient avoir une structure autonome et que l'administration centrale ne devait plus agir a priori, mais a posteriori. Donc on avait posé les bases. Mais on a été surpris que déjà en 1996, ça n'a pas été forcément respecté. C'est la raison pour laquelle on est douteux, on doute du fait que cette décentralisation puisse fonctionner. Parce que voyez-vous, vous avez affaire à une décentralisation qui veut que les élus puissent diriger, mais en même temps, la loi dit qu'il faut soumettre tout à l'administration centrale. C'est là où se pose un véritable problème. Et comme Maître Sim disait, si cette décentralisation avait été mise en place à cette période, on n'aurait jamais eu cette crise anglophone. Cette crise anglophone est venue du fait qu'on n'a pas respecté les accords de la tripartite. Et quand bien même on a eu la Constitution en 1996, on ne l'a pas mise en route.
Merci.
Maintenant qu'on essaye de la mettre en route, on parle, vous voyez, ils ont commencé par dire, ce n'est plus les provinces, c'est les régions. On leur dit, ben non, c'est pas ça les accords de la tripartite. Il faut que ce soit dans le fond, qu'on travaille le fond. Et maintenant, vous vous rendez compte que le pays est en guerre, nous avons le Noso qui a des problèmes, et ils sont en train de regarder qu'est-ce que nous appelons la décentralisation.
Merci.
Et cette décentralisation n'est pas bien conçue. Je vous dis, elle n'est pas bien conçue. L'avantage qu'il peut avoir dans cette affaire, c'est que l'institution va exister, mais les mécanismes de fonctionnement ne sont pas bien huilés,
Merci.
Sont pas consensuels.
Merci beaucoup, M. Sambaka. On va revenir à vous. Hein. On va écouter professeur Messanga Niamding. Vous m'entendez?
Oui, je vous entends très bien, madame.
Nous dirons un mot tout à l'heure sur le déroulement de la campagne, mais pourriez-vous répondre aux observations faites par messieurs Sim et Baka sur le fait que oui, élection régionale, certes, mais cela arrive trop tard?
Ben, vous savez, je regrette qu'ils aient politisé, en fait, la crise, ce qui se passe aujourd'hui dans la zone anglophone du Cameroun. Mais quand je me demande si les représentants de l'opposition, du moins Maître Sim, pour qui j'ai beaucoup de respect, et Sambaka également, se comprennent eux-mêmes. Le Cameroun a hérité d'un système colonial détestable. Il faut quand même rappeler aux auditeurs qui nous écoutent, ils parlent pour eux-mêmes, je pense, et pour leur parti. Et moi, je voudrais rappeler aux auditeurs qui nous écoutent que lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin, qui a duré de novembre 1884 à février 1885, l'Occident, l'Europe s'est partagée, l'Afrique, et le Cameroun a hérité de l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui a hérité du Cameroun. Donc nous sommes devenus un protectorat allemand. Alors, lorsque l'Allemagne perd la guerre,
La France occupe une partie du Cameroun qu'on appelle aujourd'hui zone anglo-francophone.
Permettez-moi de vous interrompre, professeur Niamdi. Non pas que l'histoire ne nous intéresse pas, mais on n'a pas beaucoup de temps de peut-être faire ce rappel historique. La question était de savoir pourquoi est-ce qu'une constitution en 96 prévoit l'organisation des élections régionales, parle de décentralisation, et 24 ans après, il n'y a pas cette élection. Qu'est-ce qui explique cela en quelques mots?
Oui, madame, si vous me laissez gérer le même temps que vous avez accordé aux opposants, vous verrez que je ne passe pas mon temps dans l'histoire. Je permets plutôt à vos éditeurs de comprendre que le président Paul Biya, quand il prend ce Cameroun, le seul souci qu'il a, c'est la consolidation d'un Cameroun uni tel qu'il était avant la colonisation. Je crois que c'est clair. Maintenant, lorsqu'on parle de la Constitution du 18 janvier 96. Mais c'est le président Paul Biya qui porte cette constitution, qui inscrit dans un de ses articles le statut de l'État, un État décentralisé, ça il faut le reconnaître, unitaire et décentralisé. Mais alors, je suis sur un point. Lorsque Maître Sim ose vous dire que oui, on n'a pas été d'accord avec la décentralisation, et puis, il y a la guerre au nord-ouest, au sud-ouest. Et aujourd'hui, on ne peut plus rien faire. Mais il oublie de vous dire que le MRC est allé aux élections.
Professeur Niamdi, je suis obligé de vous interrompre pour une pause obligatoire. On vous donne la parole tout à l'heure.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Suite du grand rendez-vous avec nos invités, Sambaka, ancien premier vice-président de l'UDC, Emmanuel Sim, avocat, et troisième vice-président du MRC, de l'opposition. Et nous avons perdu à l'instant professeur Messanga Niamdi, à qui nous voulions donner la parole, et nous allons tenter de le recontacter avec l'espoir de l'avoir. Pour poursuivre et défendre la position du parti au pouvoir dans cette émission. Et je vous rappelle que nous parlons des élections régionales qui se tiennent au Cameroun dimanche prochain. Et je vais revenir à vous, hein, Maître Emmanuel Singh. Vous avez écouté l'explication qu'avait commencé à donner tout à l'heure le professeur Niamdi en défendant que le président Biya avait une grande volonté de mettre en place la décentralisation, même si effectivement cette élection régionale arrive un peu tard, disiez-vous.
Non, mais la volonté, elle s'exprime par les actes. Depuis 1996, s'il y avait une réelle volonté politique de passer au régional, je pense que M. Biya avait eu tout le temps de le faire. Madame, je vous dis que M. Biya considère que décentraliser, pour lui qui est un grand jacobin, c'est perdre ses pouvoirs. Parce que le pouvoir central lui convient comme un grand. Et il aime ce pouvoir central où tout vient de lui et tout part après de lui. Voilà, il nomme tout le monde, il nomme M. Biya, nomme même les proviseurs des listes. Donc il aime ce pouvoir central et il ne voulait pas.
Est-ce que vous ne faites pas un peu de caricature, Maître Sim, quand madame, vous dites que M. Biya nomme les proviseurs? Est-ce qu'on a déjà écouté un décret lu à la télévision que le président de la République a nommé un proviseur de lycée?
Absolument, madame. M. Biya nomme même les censeurs des lycées. Pas seulement les proviseurs. Il nomme les censeurs des lycées, madame. Personne ne peut y croire. Mais M. Biya est pas la future centrale du pouvoir. Madame, s'il vous plaît, il ne veut pas du tout qu'on décentralise parce qu'il sait très bien que décentraliser, c'est perdre un peu de son pouvoir. Donc,
merci.
Aujourd'hui encore, j'assure, madame, que M. Paul Biya va à cette décentralisation qu'on aurait efforcé par la crise anglophone. C'est un fait.
Merci beaucoup. Maître Sim. M. Sambaka, vous m'entendez? Allô? Oui, alors, il y a 14 partis politiques qui sont quand même engagés pour ce scrutin, qui vont compétir dimanche prochain. Je mentionnais que le vôtre, votre ancien parti, l'UDC, en fait partie. Qu'est-ce que, malgré tout, vous attendez de cette élection, même si Maître Singh est très prudent, quant à un possible changement après cette élection par rapport à la décentralisation?
Non, il sera difficile qu'il y ait un changement. Je vous ai dit que ce qu'il y a comme acquis, c'est que l'institution existera déjà. Et c'est à partir de dimanche, quand ces élections vont passer, que le vrai combat va arriver, parce que, en réalité, nous avons des élus qui vont avoir que des problèmes de conflit avec le pouvoir central représenté dans les régions, parce qu'il y a un vaste cafouillage entre les possibilités des élus d'agir, parce qu'ils sont obligés de soumettre un certain nombre de choses à l'administration centrale. Deuxièmement, il y a déjà que le Premier ministre du Cameroun, il a dû taper du poing sur la table pour que les ministres acceptent le transfert des compétences, mais le transfert des moyens reste encore un problème. On a voté, après le grand dialogue, que le budget de l'État devait avoir 15% pour les régions. Et ça, ce n'est pas encore acquis, parce que le ministre des Finances dit qu'il y a des problèmes d'argent et qu'il faudra renvoyer cela. Donc vous voyez très bien que ce qui a été mis en place, c'est les salaires de ceux qui vont faire l'exécutif régional, mais en termes d'attente des populations, il n'y aura rien. Il n'y aura rien parce qu'il faut d'abord terminer le combat avec l'administration centrale qui refuse de décentraliser et qui refuse de transférer. Donc il y a ce problème qui va se poser. Moi je vois déjà dans les régions, le pouvoir central reste en place avec ses composantes déconcentrées. Ceux des régions devront trouver du personnel.
Merci.
Il y aura dualité, il y aura effectivement des confrontations.
Merci beaucoup.
Mais plus grave encore, il y aura que le RDPC qui a la majorité des conseils municipaux vont envoyer des gens qui sortent de l'administration centrale pour faire leur retraite,
Merci.
Mais pas dans les services déconcentrés de l'État.
Merci Sambaka. Et nous avons retrouvé le professeur Messanga Nyamdi qu'on va pouvoir écouter enfin. Professeur, vous avez perdu tout à l'heure. Bon retour. Alors, vous étiez avant la pause en train de défendre la position du président Biya qui, selon vous, est définitivement convaincu de cette décentralisation à laquelle ne croient pas vos deux autres participants à cette émission.
Je vais vous dire pourquoi le MRC, d'abord, ne croit pas à la décentralisation. D'abord parce que le MRC a donné l'impression qu'ils avaient gagné l'élection présidentielle du 18 octobre 2018. Or, dans les faits, madame, ce parti est allé aux élections présidentielles alors qu'il y avait la guerre au nord-ouest et au sud-ouest du Cameroun. Deuxièmement, vous avez vu que le représentant du MRC sur ce plateau accuse et rejette le code électoral. Mais si le MRC est sorti deuxième à l'élection présidentielle, madame, je voudrais vous montrer jusqu'à quel point ils sont démagogiques. C'était avec ce même code électoral. Pour conclure, s'il y avait un seul parti qui n'était même pas qualifié à participer au régional, c'est le MRC. Ils ne sont pas impliqués. Pour une seule raison, ils ont boycotté le double scrutin des législatives et des municipales. Et pour être acteur, il faut avoir des conseillers municipaux. Les deux que vous avez invités sur le plateau là, mais ils ne peuvent pas voter. Vous voyez même que c'est démagogique et courageux de leur part de venir dans les médias opérer un commentaire alors que leurs deux partis ne sont même pas qualifiés conformément à la règle du jeu démocratique. C'est ce que je pense. La constitution du 18 janvier 1996 qui consacre effectivement la décentralisation, toutes les institutions ont été pratiquement mises en place, du moins les institutions de vote. Le Parlement, le Sénat et la dernière institution est la région. C'est pourquoi je pense que ces élections consacrent la fin d'un processus de démocratisation qui était très attendu par les Camerounais.
Même si c'était un peu tard, même si c'est 24 ans après.
C'est conforme. Vous savez, madame, vous avez invité sur le plateau un excellent avocat, Maître Sim, que je connais très bien, et qui a une compétence au Cameroun en droit dont la notoriété ne souffre d'aucune contestation. Lorsque vous prenez l'article 67 de la Constitution du Cameroun, il est bien écrit, je cite, les institutions seront progressivement mises en place. Madame, c'est prévu dans la Constitution en dehors de la démagogie de Sim.
Merci.
Ou accord de Sambaka.
D'accord.
Et je pense que conformément à la Constitution, le principe de progressivité a été respecté à la fois par le président Paul Biya.
Merci.
Et tous les Camerounais qui croient à la démocratie.
Sur l'absence de l'opposition, ou tout au moins les deux principaux partis de l'opposition, dimanche prochain, vous expliquez que c'est une absence qui était attendue. Mais vous qui menez campagne et qui êtes présent, je pense, dans les plus de 50 circonscriptions où le RDPC a présenté des listes, est-ce que vous avez réussi à mener campagne dans les régions troubles du Nord-Ouest et du Sud-Ouest?
Mais madame, on bat campagne partout. Je voudrais même vous apporter une information technique en tant que politologue. Lorsqu'on va à une élection, comment on peut apprécier la légitimité de cette élection? Par la participation. Attendons. Nous attendons à peu près 10 000 électeurs. Nous verrons. Si nous arrivons à un taux de participation en dessous de 50%, ou alors même 80%, nous allons apprécier. Alors, on ne peut pas apprécier la légitimité de cette élection tant qu'il n'y a pas vote dimanche. Alors, moi, je mets au défi ces deux opposants qui sont sur le plateau de dire que si le taux de participation est très élevé, ils comprendront que ces élections sont soutenues et plébiscitées par les Camerounais. Par contre, s'il n'y a pas un grand plébiscite aux urnes, eh bien, je leur donnerai raison.
Merci.
Je comprendrai alors que l'action que nous menons est impopulaire.
Encore une question, professeur Mestanga Niamdi, et vous ne nous direz pas quand vous avez pas, quand on n'a pas rattrapé le temps qu'on a perdu avec les lignes tout à l'heure. Comment mène-t-on une campagne sur le terrain lorsqu'on part à une compétition électorale sans réel enjeu et lorsqu'on est quasiment sûr de l'emporter?
Mais madame, il y a un enjeu. Il y a un enjeu. Je vous assure que le premier enjeu, c'est le développement local. Vous savez, la décentralisation, c'est lorsque le pouvoir central...
Monsieur Sambaka en doute.
Oui. Sambaka est un opposant, il joue son rôle.
Oui.
Sam vient de quitter...
Il estime que ce sera une façon de recaser un peu les fonctionnaires retraités.
Pardon?
Il estime que ce sera une façon de caser un peu les fonctionnaires retraités sans réel transfert de pouvoir central vers les régions.
Mais madame, mettez-vous à la place de Sambaka. Si vous avez deux commerçants, un a des choses à vendre, l'autre n'en a plus, quel est celui qui sera le plus heureux? Mais Sambaka est malheureux. Il a mené campagne avec un parti qui a donné au Cameroun des conseillers municipaux. Et ce parti l'a chassé.
Merci.
Mais vous voulez que Sambaka soit heureux, pourquoi?
Sambaka, une réponse au propos du professeur Niamdi?
Oui, je dois dire à mon jeune frère, le professeur Mestanga Niamdi, que le parti que j'ai quitté va avoir des conseillers régionaux dans l'ouest du Cameroun.
Tout à fait.
C'est quelque chose de sûr. Bon, maintenant, si je dis que les institutions vont être mises en place, c'est la seule chose de gagner dans le jacobinisme, parce que c'est impossible dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Logiquement, ce sera des nominations.
D'ailleurs, les sécessionnistes ont appelé au boycott de cette élection.
Tout à fait. Mais vous savez très bien que l'enjeu de ces élections se trouve uniquement dans le parti au pouvoir. Quels sont les gens qu'on va nommer? Parce que ça ne sera pas une élection. On a vu comment est-ce qu'ils fonctionnent. C'est pour cette raison que j'ai dit que la plupart des gens qui seront dans l'exécutif régional, ce seront des anciens fonctionnaires et ils n'apporteront rien parce que les mécanismes de fonctionnement du jacobinisme qu'ils ont fait dans le pouvoir central ne leur permettra pas de dialoguer avec les populations. Donc il faut tenir compte de cela et je pense que la vraie bataille va commencer.
Allô, Sambaka, nous l'avons perdu. Maître Emmanuel Singh, vous êtes là?
Je suis bien en ligne.
Le cardinal Christian Toumi, ancien archevêque de Douala, a déclaré que cette élection régionale ne va pas résoudre grandes choses et qu'il faut aller plus loin. Il parlait de ce débat sur le fédéralisme que ne souhaite pas évoquer le pouvoir.
C'est exactement ce que nous pensons, nous aussi, madame, et qu'on a toujours dit. Nous disons que l'élection des régionales ne va pas résoudre le problème qui est posé au nord-ouest, au sud-ouest. Si on est d'accord que c'était une recommandation de ce grand débat national, il est évident que le 6 décembre, ce n'est pas loin. On verra si, après l'élection, la crise du nord-ouest au sud-ouest va s'arrêter immédiatement. Nous pensons que non, madame. On fait une élection par roublardise. Et nous disons qu'on ne dirige pas un pays par la roublardise. J'entends mon...
Mais que reprochez-vous aux autorités? Quand on n'a pas mis en place, quand on n'a pas organisé ce vote, vous leur reprochez de ne l'avoir pas organisé, alors que c'était prévu par la Constitution de 1996. Et lorsque le pouvoir décide de le faire conformément aux conclusions de dialogue, vous dites également que ça ne résout pas le problème. Qu'est-ce que vous voulez finalement, Maître Sim?
Madame, c'est trop tard. Nous disons simplement que si il y a 24 ans, on avait mis en place les régions, on n'aurait pas été jusqu'à la crise armée aujourd'hui. C'est très tard. Aujourd'hui, madame...
D'accord, mais qu'est-ce que vous auriez souhaité? Qu'on n'organise pas cette élection du tout?
Du tout, madame. Madame, il y a des préalables. Nous disons qu'il faut d'abord que les Camerounais puissent s'asseoir dans le cadre d'un vrai dialogue cette fois-ci, pas le dialogue de 2019 qui était en réalité un monologue entre
merci.
Le RDPC et lui-même. Madame, c'est très important.
Merci, mais on va devoir marquer une autre pause quelques minutes et on se retrouve pour la suite du débat.
Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et suite et fin du grand rendez-vous avec nos invités, professeur Messanga Niamdi, membre du comité central, membre titulaire du comité central du RDPC parti au pouvoir, maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du MRC parti d'opposition au Cameroun, et Sambaka, ancien premier vice-président de l'UDC, de Fouad Amoud Damdjoya. Messieurs, ça va aller très vite, on a à peine 6 minutes pour conclure cette émission. Et je vais vous laisser terminer vos propos, maître Emmanuel Sim, que nous avons interrompu avant la pause.
Oui, madame, donc je disais, et je pense que l'histoire nous donnera certainement raison que les élections régionales qui sont organisées, si elles ont été pour résoudre la crise au nord et au sud-ouest, elles ne l'auront pas résolue, je le crois. Malheureusement, je
disais... Allez-y, pour conclure.
Oui, je pense que la solution aujourd'hui, c'est d'inviter tous les Camerounais de tous les bords à s'asseoir autour d'une table et de définir le Cameroun de demain, notamment en discutant sur la forme de l'État au Cameroun. C'est ce que les anglophones demandent. Ils ne demandent pas cette décentralisation aujourd'hui.
Le fédéralisme.
Un État fédéral. Absolument. Et je pense qu'on doit enfin les entendre. On doit enfin les écouter. Au lieu de quoi, on va à marche forcée vers une élection qui, je pense, va créer plus de problèmes. En 2018, tout à l'heure, M. Messanga Niamdi, mon frère, en parlait. Il y a eu 5%, madame, d'électeurs au nord-ouest, 5% à la présidentielle, et seulement 14% au sud-ouest de personnes ayant exprimé leur suffrage. Ça veut dire qu'en fait, depuis...
Et pour les régionales, le parti au pouvoir est seul en liste pour les régions du nord-ouest et sud-ouest. Il n'y a pas d'autres partis en concurrence.
Il n'y a pas de concurrent, donc on ne peut pas dire que c'est une démocratie que le régime de M. B est en train...
Mais est-ce que vous voulez dire que cette élection n'a aucune valeur, maître Sim?
Non. M. Sambaka l'a dit. Je pense que c'est déjà quelque chose que, structurellement, les régions soient mises en place. On verra comment
Merci.
Ça va fonctionner.
Merci.
Ce que je dis, c'est que si on nous fait croire que c'est la solution au problème, eh bien, je dis non, ce ne sera sûrement pas la solution au problème.
Merci
on
beaucoup.
On attend de voir, madame.
Monsieur Sambaka, vous partagez également cette analyse, une élection pour rien et qui n'aura aucune valeur?
Oui, mais moi, je dois vous dire que ce qui est certain, c'est que ces élections n'apporteront aucune solution. les élections n'apporteront aucune solution parce que le but de ces élections, c'était un positionnement. Le RDPC se positionne partout au Cameroun pour conduire les régions. Et c'est après cela, et après avoir constaté que ça n'a rien changé, qu'on pourra espérer à un dialogue franc. Mais je crois que ces élections ont été lancées pour positionner le parti au pouvoir, pour dire que c'est eux qui contrôlent toutes les régions. Mais le vrai combat, comme je vous ai dit, c'est après ces élections, parce que les Camerounais et les observateurs pourront constater que la guerre se fait à l'intérieur du RDPC, parce que ceux qui sont dans la décentralisation et ceux qui sont dans le pouvoir central sont en train de se confronter.
Merci beaucoup.
C'est inévitable, mais du côté de nos eaux, il ne faut rien espérer parce qu'on attend encore le statut spécial.
Merci.
Quand je parle des institutions, c'est du côté francophone. Du côté anglophone, je ne peux rien vous dire là-dessus parce que rien n'est fait. Et ils ne sont pas, ils sont très loin, ils sont observateurs aujourd'hui. Nous devons nous battre pour avoir un consensus à ce niveau.
Laissons le professeur Niamdi répondre à ces observations. Monsieur Sambaka parlait effectivement de ces querelles et ces tensions au sein de votre parti, monsieur Messanga Niamdi. On a constaté que ce soit dans le littoral ou le centre, ou même dans l'Est, qu'il y a eu beaucoup de rivalités pour cette élection régionale. Pourtant, il n'y a pas une partie, cette élection, les principaux partis ne sont pas représentés. Finalement, qu'est-ce qui explique ces querelles au sein de votre famille politique?
Mais alors, c'est ce que je voudrais corriger dans cette grande émission, madame. Mais c'est faux ce qu'ils disent. Madame, il y a 7 partis politiques qui vont aux élections. Il n'y a que les deux là, qui sont les transfuges. L'un est transfuge du SDF, monsieur Maître Singh, et l'autre est transfuge de l'UDC. Vous voyez que voilà 2 personnes même instables.
Mais beaucoup de ces partis sont alliés du RDPC et ne sont pas ni du SDF, le MRC, qui sont les principales forces politiques. Madame, L'UNDP, l'UPC et même le PAL, ce sont des partis alliés. Le FSNC et tout, ce sont les partis alliés. Ou le MDR.
Non, madame, permettez-moi techniquement de corriger quelque chose pour votre grande émission. Vous savez, en sciences politiques...
Vous avez 40 secondes?
Oui, c'est pas vrai. Cabral Libi n'est pas allié au RDPC. Le SDF n'est pas allié au RDPC. Il y a 7 partis. L'UNDP, l'ANDP, le FNNC...
Le MDR.
Il y a 7 qui partent, le MDR. Alors, que cela ne vous mente pas, qu'ils disent la vérité. Vous voyez que tout au long de ce débat, ils ont donné l'impression que le RDPC était seul. Or, tous les partis représentés à l'Assemblée et même au municipal vont à ces élections, sauf les paresseux qui n'ont pas réussi à convaincre le peuple camerounais.
Le MRC et le SDF, partis paresseux selon vous. Et en quelques mots, professeur Niamding, est-ce que vous craignez des violences au cours de ces élections, notamment dans les zones problématiques anglophones, où vous pensez que tout a été mis en œuvre pour un vote réussi, comme l'a souligné le président de l'ECAM?
Madame, c'est le triomphe de la démocratie au Cameroun. C'est un pays tranquille avec 208 ethnies. Et je vous assure que ces élections consacrent la décentralisation, c'est-à-dire le transfert de pouvoir aux collectivités territoriales. Et pour ma part, et je termine là-dessus, c'est une forme de fédéralisme. Et je pense que désormais, le pouvoir revenant désormais aux collectivités territoriales décentralisées.
Merci.
Rien ne nous dit qu'on va s'arrêter là, mais pour moi, c'est une forme de fédéralisme qu'il faut plutôt saluer, madame.
Merci beaucoup et c'est la fin de cette édition de Grand Rendez-vous sur Africa Radio. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé. Nous recevions Maître Emmanuel Singh, 3e vice-président du MRC, parti d'opposition, professeur Messanga Niamding, membre titulaire du comité central du RDPC au pouvoir, et Sambaka, ancien 3e vice-président de l'UDC. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain.